Chapitre 10. Quand le duc de Nauruz arriva au café riche et entra dans le salon qui lui était réservé, il y fut salué par un concert d'exclamations. Une demi-heure de retard! Nauruz abuse de sa majorité. La majorité donne le droit de faire des dettes à de bonnes conditions, non celui de manquer à ses engagements. Cette réflexion pratique était du vicomte de Mautravers qui avait été le premier à serrer la main de Roger. Tous les convives, hommes et femmes, étaient arrivés. Les femmes, assises auprès de la cheminée ou en face sur un divan, les hommes debout, groupés çà et là, les uns causant, les autres regardant par les fenêtres le défilé des voitures qui tournaient le coin de la rue pour se rendre à l'opéra, avec leurs glaces closes et leurs cochers en mitouflet de fourrure raide sur leurs sièges, les bras tendus, attentifs à bien tenir leurs chevaux, qui glissaient sur la neige glacée. Les femmes, la vieille Esther Marix, un vrai pastel, mais superbe encore avec son galbe aux lignes pures, Cara, tout de blanc habillée, en vierge de théâtre, simple, austère, mais avec un collier de perles au cou qui valait plus de 300 000 francs. Balbine, qui n'avait jamais pu jouer un rôle de 20 lignes et qui, cependant, était une célébrité parisienne pour les épaules. Enfin, Raphaël, la curiosité, l'attraction de la soirée. Une parisienne pur sang, un minois avec des yeux parlants, sans gorge, sans hanches, mais pleine de vie, de vivacité, toujours en mouvement, rebelle à toutes les fatigues, le sommeil comme l'ivresse, ce qu'elle avait victorieusement prouvé dans un séjour de 3 années en Russie, où elle avait obtenu des succès étourdissants par la façon délurée dont elle savait se servir de l'argot poissard en l'appliquant à l'émoustillement de la vieille noblesse russe et à l'émancipation de la jeune. Les hommes. Le prince de Capel, venu là comme il allait partout, sans se soucier de rien, ennuyé seulement de n'avoir pas faim pour dîner et vexé aussi de ne pas éprouver le plus léger désir à la vue de Raphaël qu'on lui avait vanté et qui se mettait en frais de coquetterie pour lui, au point de faire des phrases en lui parlant, peine qu'elle ne se donnait ordinairement pour personne. Le duc de Caramis, que 10 années de vie parisienne à outrance, sans repos et sans relâche, ni de jour ni de nuit, avait exténué, et qui allait partir pour Madère, où les médecins l'envoyaient demander un miracle. Le prince Savine, venu de l'Oural à Paris pour faire parler de lui et rendre célèbre dans le monde entier sa noblesse, sa fortune, sa générosité, sa bravoure, son esprit, ses goûts artistiques, toutes les qualités en un mot, dont il se croyait plus richement doué qu'aucun mortel, mais qui restait continuellement tiraillé entre 2 sentiments contraires, l'orgueil de faire étalage de sa richesse et la peur qu'on voulût exploiter cette richesse quand on la connaîtrait, si bien que toutes les fois que, dans un mouvement de vanité, il s'était laissé entraîner à une dépense, aussitôt son avarice ingénieuse s'appliquait à diminuer cette dépense ou, si c'était impossible, à se rattraper sur une autre. Le baron de Montrevaux, sans qui il n'y avait pas de dîner, pas de souper, pas de duel possible, et qui jugeait tout d'un mot, toujours le même, ça, c'est correct. Le marquis de Sermizel, qu'on n'avait pas vu depuis 2 ans au régiment de chasseurs à cheval dans lequel il était lieutenant, Poupardin, qui cherchait intrépidement toutes les occasions de jeter son argent à pleine main, afin qu'on oubliât qu'il était le fils de Jacques Poupardin, de la participation Poupardin, Alain et compagnie, qui a gagné une énorme fortune dans la construction des lignes de chemin de fer. Enfin, le vicomte de Mautravers, l'ami, le compagnon, l'inséparable du duc de Nauruz, et, en même temps, le confident, l'homme de confiance de M. de Condrieu-Revel. « Je craignais que vous n'eussiez cassé les jambes à vos chevaux », dit le prince de Capel, qui avait le cœur très sensible pour les bêtes. « Non, dit Roger sans s'excuser, je me suis attardé dans la conversation d'un honnête homme et j'y ai trouvé un tel intérêt que j'ai oublié la marche du temps. « Toujours sentimental, ce bon Roger !» s'écria Mautravers d'un ton goguenard. « Il est superbe avec son honnête homme, quelque crève la faim qui lui a tiré 5 louis. »« Pas tout à fait. » « Le chiffre ne signifie rien. Ce qui est grave, c'est de s'emballer ainsi à la suite de n'importe qui. Pour moi, j'ai un principe dont je me suis toujours bien trouvé, c'est de ne m'intéresser qu'à ce qui me touche dans la satisfaction immédiate de mes besoins et de ne m'inquiéter que de ce que je peux utiliser, que de ce qui doit servir à ma consommation, argent ou plaisir. Voilà. Je vous remercie, dit Roger en riant. Et moi, je ne vous remercie pas, dit Savine. Vous nous faites perdre notre temps et cela me touche dans la satisfaction immédiate de mon appétit. Comme on n'attendait que l'arrivée du duc de Nauruze pour être servi, la porte qui faisait communiquer le petit salon avec le grand où la table était dressée fut ouverte à deux battants par le maître d'hôtel. Roger avait voulu que le dîner qu'il donnait pour fêter sa majorité ne se passât point dans une salle banale de restaurant, et comme il ne pouvait en faire construire une spéciale pour cette circonstance, il avait au moins essayé que celle où il recevait ses convives eût quelque chose de particulier et de personnel. Pour cela, il avait fait recouvrir les murs de tapisseries et de tentures, et aux quatre coins de la pièce, on avait disposé quatre grandes jardinières triangulaires à gradins, sur lesquelles, dans un tapis de mousse et de lycopodes, on avait dressé des pyramides de plantes et d'arbustes, non de ces plantes et de ces arbustes à feuillage ornemental qu'on peut pendant tout un hiver envoyer en ville, de maison en maison, donner des représentations, mais des plantes fleuries, délicates et fragiles, qui ne restent guère qu'une soirée dans leur éclatante fraîcheur. Des violettes de Parme, des jacinthes, des jonquilles, des roses, des épiphyllums en cascade rosée, des poinsettias aux collerettes éclatantes, des lilas blancs, tout cela harmonieusement groupé, sans s'étouffer, et pour que les couleurs se fissent valoir les unes les autres par contraste. L'effet était délicieux et rendu plus charmant encore par l'impression de froid, de neige et de glace qu'on apportait du dehors. « Ça, c'est correct !» dit Montrevaux. Le mot passa inaperçu, l'attention étant attirée par un petit cerisier qui avait été placé au milieu de la table en guise de corbeille de fleurs. Il était dans un pot entouré de mousse et il formait une pyramide parfaite qui montait jusqu'au plafond. Aussi, pour lui faire place, avait-on dû enlever le lustre, qu'on avait remplacé par quatre candélabres qui l'enveloppaient de lumière, et par des appliques, avec miroirs formant réflecteurs, posés sur les tapisseries et les tentures. Au milieu de son feuillage d'un vert sombre lustré, se montraient de belles cerises bien rouges, et arrivaient juste à point de leur maturité. « Oh, le joli cerisier !» s'écrièrent les femmes. Et l'une d'elles, Balbine, qui s'était dirigée vers la table, étendit la main pour cueillir un fruit. Mais doucement, le duc de Nauruze l'arrêta. « Un moment, » dit-il. Puis, se tournant vers le maître d'hôtel, qui se tenait à distance respectueuse, les bras arrondis, les pointes en dehors, le visage souriant, incliné en avant, flottant à droite et à gauche dans l'attitude d'un artiste satisfait de son ouvrage et qui attend modestement les compliments qui lui sont dus, « Qui a eu l'idée de ce cerisier ? » demanda-t-il. « Moi, monsieur le duc, on nous l'a offert ce matin et il était si joli, si bien réussi avec son feuillage et ses fruits mûrs, que j'ai cru que monsieur le duc serait satisfait de le voir sur sa table. Alors ?»« Alors, vous avez fait une sottise. Je suis bien aise de voir sur ma table ce que j'ai commandé, rien de moins, rien de plus. Emportez ce cerisier. » Le maître d'hôtel ne répliqua pas. Il s'inclina et, se retournant, il fit un signe au garçon qui se tenait immobile aux quatre coins de la salle. Ceux-ci se détachèrent de la muraille où ils semblaient appliqués ni plus ni moins que des personnages de tapisserie et, s'approchant de la table, ils enlevèrent le cerisier avec précaution, s'arrêtant, se reprenant lorsque les fruits se balançaient trop fortement au bout de leurs queues allongées. Pendant ce temps, Roger désignait à ses convives les places qu'il devait occuper. Raphaël à sa gauche, Cara à sa droite, le prince de Capel en face de lui, les autres où il voudrait. « Si j'avais les mines de notre ami Savine, dit-il lorsque chacun fut assis, ou bien si j'appartenais à la participation Poupardin, Allen et compagnie, je serais heureux de vous offrir ce cerisier. Mais dans ma position, ce serait de la folie. » « Quelle bêtise !» dit Sermivel. Moi, je trouve ça très chic !» cria Poupardin. « Nauruze se met au-dessus des préjugés, c'est crâne. Vive Nauruze !»« Bravo, mes compliments !» appuya le prince de Capel. « Quand c'était l'argent des usuriers qui sautait, continua Roger, c'était parfait. Mais maintenant que c'est le mien qui est en jeu, il est temps de compter.
« Ça va durer ?» demanda Mauxtravers.
« Je l'espère !» Et sans plus s'inquiéter des exclamations, approbations ou critiques qui s'échangeaient autour de la table, il tira un carnet de sa poche et, tranquillement, il se mit à écrire quelques mots sur une carte de visite. Puis, faisant un signe au maître d'hôtel, il lui donna cette carte après lui avoir dit quelques mots à voix basse et à l'oreille.
« Savez-vous ce que le duc vient d'écrire sur sa carte et de dire au maître d'hôtel ?»
s'écria Cara, qui, pendant que Roger écrivait, avait regardé par-dessus son bras.
« Non ? Qu'a-t-il écrit ? Une adresse ! L'adresse d'une femme ! J'ai lu « Mademoiselle » et il a dit « Faites porter cela !»« Il envoie le cerisier à une femme !» s'écria Esther Marix. « Quelle femme ?» demandèrent 10 voix. « Je n'ai lu que « Mademoiselle », répondit Cara. « Mais c'est une infamie, cela !»
Sans rien dire, Mauxtravers guettait le maître d'hôtel. Lorsque celui-ci, faisant le tour de la table pour sortir et s'acquitter de ce que le duc lui avait demandé, fut arrivé à sa portée, il saisit vivement la carte et la lui arracha.
« Je tiens la carte » cria-t-il.
« Le nom ! Le nom !»
crièrent toutes les voix curieuses.
« Mauxtravers !» dit Roger.
Mais, sans avoir égard à cette protestation, Mauxtravers, qui était myope, avait frotté le bout de son nez pointu sur la carte et il lut « Mademoiselle Claire Harly, 40 rue Le Pelletier. »«
Comment, Claire Harly ?» s'écria Savine.
« Mais c'est la fille du docteur Harly, mon médecin et le médecin de Norouze. Une petite fille de 5 ans. »«
C'est justement à Claire Harly que j'envoie ce cerisier, » dit le duc.
« Eh bien, il est précoce, Norouze !» dit Poupardin.
« Dites qu'il n'est qu'un enfant, » répliqua Mauxtravers. « Il envoie des cerises à sa petite camarade. »«
Justement, » dit le duc en riant, « pour faire la dînette avec elle demain. »